Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le commencer, à quel âge ? L'enrichir, tout le temps. Le détruire, pourquoi donc ? Par peur qu'il soit lu, sans doute, par d'autres yeux que les siens. Le journal intime n'ayant pas pour vocation, et a priori, d'être lu par d'autres personnes que son auteur. On peut enquêter autour de soi, nombre d'amis tiennent un journal intime. Y parle-t-il de nous ? Sans doute, on ne peut pas toujours parler que de soi-même, ce journal qui enregistre tout, bienveillant et parfois malveillant. Journaux intimes, impressions intimes, première émission d'une série de deux nuits magnétiques proposée le 19 janvier 1999 sur France Culture par Christophe Deleu.
Magnétique, bonsoir.
En fait, j'ai commencé à écrire à 14 ans, mais il s'est passé un truc qui pour moi était assez désagréable, voire plus que désagréable, c'est que j'habitais chez ma mère, comme beaucoup d'adolescentes, 14 à 16 ans. Et j'avais tous mes papiers qui étaient réunis dans une même pochette, avec des brouillons de lettres, des choses auxquelles moi je tenais, même si pour les autres ça n'a pas d'importance. Et ma mère a jugé que ces brouillons de lettres, je ne sais pas pourquoi, étaient indignes. C'était notamment des brouillons de lettres pour un amour qui lui paraissait coupable. Résultat des courses, en fait, elle a tout pris, elle a tout jeté. Maintenant je continue à les garder et je crois que si quelqu'un me les jetait, je pense que. Enfin. C'est vrai que des fois je les relis de temps en temps, surtout quand j'ai besoin de faire le point sur moi-même ou de me rappeler des choses, c'est un peu bête à dire. Et si on me les jetait, je crois que je serais pas très contente. Enfin, je pense que. C'est comme si on me volerait quelque chose qui m'appartient, presque un bout de corps, quoi.
Journaux intimes, impressions intimes, par Christophe Deleu et Anne-Pascale Desvignes.
Bon, c'est des traces, mais qui ne sont pas sous l'ordre d'un journal, c'est-à-dire qu'en fait j'écris sur toutes sortes de supports, quand je peux sur mon papier Clairefontaine. Et puis sinon, surtout, en fait, je m'aperçois que j'écris sur ce que je trouve sous la main, parce que des fois j'ai besoin d'écrire un truc. Donc. Soit sur des feuilles, soit sur mon chéquier des fois quand j'ai plus. Donc après j'arrache les chèques et j'écris à l'arrière, j'écris sur des copies. Parfois j'ai écrit pendant des concours, j'avais envie d'écrire, donc j'ai écrit sur des copies de concours. J'ai écrit sur des cartes de visite que des gens m'avaient données. Et en fait je date tout. Donc je mets le jour, la date, l'année et je range tout. Après je classe tout par date et par année. Donc en fait c'est des bouts de papier, des bouts de tout sur lesquels j'écris, quoi.
15 janvier 1998, 21h, seul dans un café de Lille. Ce soir je décide d'arrêter mon journal intime, sans trop savoir pourquoi. J'écris, deux points, ces dernières lignes seront pour les autres, qui comme moi tiennent un journal intime. Aller à leur rencontre, enregistrer leurs paroles. Ce seront les derniers mots du journal. Peut-être m'aideront-ils à comprendre pourquoi je cesse ce journal intime. Et aussi pourquoi je l'ai commencé il y a 10 ans.
Merde, chier, bordel, chier. Trop de cul, enculé, putain. J'ai pas envie.
De rater.
En 1988, j'écrivais, deux points, avec ce journal, c'est comme si je m'entraînais à vivre, avant de vivre. Peut-être pour ne rien rater. Ainsi, peut-on en même temps faire de jolies choses avec de jolies femmes, comme dans les films de Lubitsch, tenir des propos aussi intelligents que dans les films de Mankiewicz, être aussi profond que dans les films de Bergman? Ce désarroi, ne pas savoir quel type de vie choisir, hésiter entre les différentes voies proposées par les cinéastes, je l'ai raconté à S, que je semble intéresser. Depuis, elle semble me fuir.
D'écrire un journal, c'est difficile. C'est comme si on décrivait un ami ou une amie avec qui on parle beaucoup. Alors d'écrire, bon...
La forme, ça se présente comment? C'est un cahier?
Oui, alors il y a deux aspects. Quand je suis chez moi, devant mon que j'ai mon ordinateur, j'utilise le traitement de texte. Et puis, je mets ça sur, évidemment, une disquette. Et puis, quelquefois, j'essaie de changer un petit peu, faire du traitement de texte, quand j'ai le temps, parce que, bon... Et quand je suis chez ma mère, parce que j'y vais assez souvent, et là-bas, je n'ai pas un ordinateur, alors j'ai des cahiers. Et là, j'écris à la main. Mais c'est pas tout à fait la même chose, finalement. C'est pas la même démarche, c'est assez curieux. Enfin, bon. Je pense que j'écris mieux, enfin, avec un plus beau style sur mon cahier que sur mon traitement de texte.
Il y a deux journaux parallèles, alors?
Il y en a même un troisième. Parce que quand j'arrive à me souvenir de mes rêves, j'écris aussi mes rêves. Mais alors ça, c'est toujours sur des cahiers, jamais sur traitement de texte. D'ailleurs, j'ai commencé par écrire des rêves, avant d'écrire la vie, disons, réelle, quoi, si on peut dire.
Vous avez commencé votre premier journal intime, c'était sur les rêves.
J'ai commencé à avoir envie d'écrire des rêves, mes rêves, pour les interpréter. Parce que j'aime bien rêver, je rêve souvent. Pour m'aider, peut-être, enfin... Pour essayer d'y voir plus clair en moi aussi, peut-être.
Qu'est-ce que vous racontiez comme rêve? Vous faisiez quoi comme rêve que vous racontiez?
Oh, bah, c'était atroce. Je veux dire, parce que c'est pratiquement toujours de mon métier que je rêve. Enfin, ou souvent, tout au moins. Je suis prof et c'est obsédant. Enfin, bon, il y a peut-être d'autres choses que j'oublie, mais quand je relis mes rêves, c'est pratiquement toujours des histoires d'élèves. Là, j'ai le rêve d'une collègue, mais enfin, c'est... C'est souvent des histoires d'élèves et de profs, une inspectrice, une inspecteur, et de chef d'établissement. Enfin, je me dis, mais comment se fait-il que je rêve autant de tout ça? Alors, c'est déjà tellement prenant le jour, mais il faut encore que ça poursuive la nuit. Mais c'est pas vrai, il faut que je m'en débarrasse. Mais on ne peut pas se débarrasser de ses rêves. Enfin, bon, cette nuit, par exemple, j'ai rêvé que j'étais inspectée. J'ai dit, peut-être que ce sera la dernière avant ma retraite. Voilà ce que j'ai pensé, en plus. Voilà.
Vous avez découvert quoi en analysant vos rêves?
Bah, mon métier prenait vraiment trop de place. Peut-être que ça m'a permis de dire il faut que je parle plus de moi parce que j'ai pas que ça hein, dans ma vie. Et puis, il y a eu le déclic.
Septembre 1987, j'ai 18 ans, la rentrée scolaire. Après avoir raté le bac, je me retrouve dans une classe, seul, sans C, l'ami qui m'avait accompagné durant ces dernières années. Est-ce pour cela que je commence ce qu'il convient d'appeler un journal intime, en dépit de sa forme, fiche Bristol blanche, format carte postale. Je relis les premières lignes. Assez de cet emploi du temps surchargé, assez de ces pertes de temps. Beaucoup trop de gens pensent à l'avenir et se projettent constamment dans le futur. Lorsqu'ils s'arrêtent pour réfléchir sur leurs conditions présentes, ils s'aperçoivent de leur vacuité, de leur néant. J'ai parfois l'impression de me jeter dans les convenances sociales comme on jette de la viande au lion.
Ah, moi j'ai toujours, enfin pas toujours, mais presque écrit. Ça fait donc 40 ans que j'écris pratiquement quotidiennement quelque chose dans un journal. Il peut être n'importe quoi. Ça va du budget jusqu'à bon, la rencontre avec d'autres. C'est surtout ça d'ailleurs, tout ce qui a fait ma vie, quoi. Tout ce qui a fait ma journée, tout ce qui a été important dans ma journée. Et je pense que justement, le mettre dans un journal, c'est encore lui donner plus d'importance. C'est aussi permettre une réflexion sur ce qui a été fait. C'est aussi, enfin pour moi, donner un sens à la vie. Parce que bon, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui est fort éparpillé. Et dans un journal, quelque part, je crois que je me rassemble. et que ça c'est important. C'est peut-être une partie de ce qui m'a permis de vivre ou survivre, puisque j'ai eu pas mal de galères dans ma vie. Oui.
Alors, est-ce qu'il a un nom, votre journal?
Ah non, c'est juste des dates. Je vois pas pourquoi je donnerais un nom. Puis bon, c'est écrit, même moi, je suis pas sûre de savoir relire tout ce que j'ai écrit. Hein. Mais en même temps, j'aimerais bien, à un moment où je serai plus disponible, relire et même réécrire mon journal pour justement pour retrouver un peu tout ce qui a été ma vie. Enfin, ce serait plus un journal, peut-être ce serait des mémoires. Oui. Je sais pas, c'est aussi, je veux dire, face à la mort, l'angoisse de la mort, et aussi les enfants, l'avenir, je trouve que le journal, c'est aussi pour moi le lien que j'ai avec tout ça. C'est la survie quelque part, c'est dire je meurs pas. Mais c'est un peu tout ce qui est écriture, hein. C'est, je crois qu'on écrit aussi par rapport à l'avenir, pas pour rester plus longtemps en vie, je sais pas, oui.
Ouais. 17 janvier 1998, rendez-vous avec Marie pour l'enregistrement. Nous arrivons en retard, Marie n'est pas là. Pourtant, je reconnais le parfum qu'elle avait lors du premier rendez-vous. Frayeur soudaine. Et si Marie s'était impatientée, était repartie, furieusement en retard? Et si Marie ne participait pas à cette émission? Mais Marie revient, une cigarette à la bouche. Elle a simplement fait quelques pas en nous attendant.
Longtemps, j'ai écrit à l'heure de faire ses devoirs. Enfin, jusqu'à... Tant que j'étais lycéenne et étudiante, je rentrais le soir et en fait, je restais 1h30, 2h à mon bureau, je faisais 1/2 heure de devoir et le reste du temps j'écrivais. Donc j'ai longtemps écrit le soir et j'aimais bien en fait l'hiver avec la nuit qui est déjà là à votre carreau, ou bien l'été, les soirs qui tombent doucement. Maintenant j'écris n'importe quand. À un moment donné j'ai pris pas mal le train, j'écrivais dans le train, mais en fait j'écris partout. J'ai pas besoin de concentration particulière. J'aime bien écrire dans les cafés parce qu'il y a une espèce de bruit de fond en fait qui est une espèce de musique. Donc de toute façon c'est pas dérangeant parce que j'ai du mal à écrire près des gens qui me sont proches parce que j'ai pas envie qu'ils le lisent, parce que même si j'y raconte rien de particulièrement, ni qui parle d'eux ni n'importe, enfin j'ai besoin d'être toute seule. Mais je trouve que dans un train on est tout seul, dans un café on est tout seul, dans la foule on est tout seul, donc j'aime bien écrire dans la foule aussi.
Hein, ça se sentait.
Donc, pour moi, c'est quand même parler de moi. Et de toute façon, je trouve que, en fait, c'est vachement narcissique, quoi, un journal. Mais c'est pour ça que je pense que c'est fait pour soi et que ça intéresse pas forcément tout le monde. Fin.
Et toi, tu penses quoi de toi?
Je pense qu'on se trahit beaucoup. Mais voilà, quoi. Enfin, ouais, je pense qu'on se trahit beaucoup et qu'on essaie d'être quelque chose, mais que c'est pas facile, quoi. C'est pas facile de pas se trahir et de pas... Mais... Je sais pas, moi, ce que je pense de moi, je vais vous la poser, la question. on peut pas répondre à cette question, enfin, rien, enfin, je sais pas, enfin... Ouais, enfin, je sais pas. Enfin, je veux pas me trahir, je veux pas... Je veux pas trahir, c'est bizarre à dire, je veux pas trahir mes 15 ans. Cette idée où d'un seul coup à 15 ans on découvre le monde et on dit moi je serai pas comme eux, moi je serai pas comme ça, moi je. Et puis en fait on cède en fait. Je vais vous lire un texte qui date de février 97 et j'ai pas la date exacte. Parce que des fois je mets juste le mois et l'année. Le désir lancinant de fuir, de devenir cancre. L'école buissonnière buissonne et se passionne. Cette paix magique de l'eau du jour, je savais la chercher, je ne la rêvais pas si proche. Lundi matin, je roulais sur l'autoroute, je partais vers mon boulot. Derrière la vitre et la vitesse, l'extase immobile du jour encore mal formé, brouillon, brumeux, essoufflé de lumière. Cette lenteur d'air mouillé le long de l'autoroute, Et même cet invraisemblable passage, en pleine salive rouge, soleil noyé sous la course rasante de brume, avec, entremêlée, la vapeur d'une usine. Que cette vision fabuleuse, autoroute, existe, hors du pur songe d'un esprit affamé, comme c'était étrange et grand. Grand, voilà, grand, comme tout à chacun. J'ai tellement désiré toucher ce frisson de l'aube, sortir de ma voiture, de ce sentiment d'être hors du monde, condamné à m'asseoir au bureau vide. Je me suis offert un petit détour par les marais. J'avais le temps, j'étais en avance. À bas le faillotage, j'avais le temps. Le temps volé, futile, gonflable. J'ai pris le chemin de terre entre les cabanes. Il y avait une dépanneuse qui tirait une voiture, une femme en robe de chambre rouge au portail. Puis plus rien. Les cabanes encore, mais avec le silence et la boue. Dans les ornières de plus en plus profondes. Puis rien, d'un coup. Le marais, plus irréel qu'en pensée. J'ai coupé l'autoradio avant d'y arriver. Peur de déranger ce monde clos. J'ai fermé l'habitude à clé, habitude citadine. À gauche, le flanc végétal de l'eau, tout nimbé de lumière et la brume, ailleurs, devant. À droite, les barques de fer usées, à demi aspirées par la vase, à mes pieds. Je suis montée sur l'arbre, en faisant attention à ma cravate, à ma veste, à ma chemise de soie. J'ai touché l'arbre, les mains dans le dos, jointes, sur l'arbre lent. Le flanc végétal avait un goût d'hiver, en tige nue. Un goût d'aube et de printemps, en fleurs fines, presque invisibles de blancheur. Et j'ai regardé, longtemps, basta, longtemps, les foulques paresseux, la course volante de la brume au ras de l'eau, et mon cœur devenait flottaison, béance, un calme intime, délicieux, poli, grandissant en moi, comme une tige venue de l'intérieur. J'ai su toute ma journée bénie, justifiée de cette simple minute. Je buvais la solitude pure, sereine. Je suis reparti, calme, comblé, concentré sur ma solitude et comme invincible. La brume s'était dissoute. J'ai vu la brume se dissoudre au-dessus des marais. Ô repère, sentiment d'avoir goûté la vie avec les paumes et les pupilles, avec le cri des poules d'eau, du gibier libre, de vivre, enfin, de vivre.
Mars 1992. K a accepté une partie de tennis avec moi. C'est la catastrophe. Je rate toutes les balles. Humiliation totale. Jamais plus une partie de tennis avec une fille. 15 avril 1992. Impression que l'ancienne vie est de retour. Je souhaite de nouveau la solitude. Mais cette fois-ci, elle sera choisie. Il n'y aura plus cette overdose de contact. Envie de précieuses rencontres qu'on prépare, qu'on savoure. Pas comme dans le quotidien, fait d'obligation de voir les gens qu'on ne désire plus découvrir. Est-ce que les personnes de votre entourage, si elles lisaient le journal, est-ce qu'elles seraient choquées ?
Actuellement, je ne sais pas encore, puisque je n'ai pas encore fait l'expérience. Je crois que certaines seraient extrêmement étonnées. Alors, je vais prendre un exemple. Si, peut-être. C'est celui de ma belle-sœur. Bon, c'est très freudien, sa belle-sœur, en plus, elle a le même prénom que le mien. Mon frère a juste un an de plus que moi. On est comme des jumeaux. Bon, je pense que c'est pas inintéressant de le dire, parce que je sens en elle comme une sorte de jalousie. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Et on n'est pas du tout pareil, pas du tout, pas du tout. Et il y a des fois, je me rends compte qu'elle me vexe, ou elle me choque. Parce qu'elle ne me comprend pas, mais moi, il est possible que ça soit la même chose. J'arrive pas à établir avec elle un dialogue. Alors, j'aimerais bien, finalement, à elle pouvoir, montrer mon journal pour qu'elle puisse essayer de comprendre à quel point j'aimerais bien qu'elle soit comme une sœur, alors qu'elle fait tout pour se protéger. Et j'arrive pas à savoir si elle est comme ça avec tout le monde. Je crois qu'elle est un peu comme ça. Ou bien si c'est parce que mon caractère, lui fait peur, parce qu'elle est bon. Moi, je suis extrêmement, évidemment, quand je dis extrêmement, oui, je suis apparemment tout au moins extravertie, et elle est introvertie, mais très très fort, quoi. Même si par ailleurs, elle est professeure de français. Moi, professeur de d'économie droit gestion. C'est moi qui écris et c'est elle qui enseigne les lettres. Bon, alors déjà, est-ce que ça l'ennuie Avec elle, je crois, j'aimerais bien pouvoir dire, ben voilà, voilà ce que j'ai écrit sur toi, voilà ce que j'ai découvert de toi, pourquoi on ne peut pas discuter mieux Regarde, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je crois que là, j'aimerais bien. Je crois que si je lui en parlais, est-ce qu'elle se souviendrait de ce qu'elle m'a dit? Je ne sais pas, mais comme je l'ai écrit, elle ne pourrait pas le nier. Ça, c'est un bon point pour un journal, je crois. Parce qu'un journal, en quelque sorte, ça fait foi malgré tout. C'est un document écrit qui fait foi. Enfin, je suis juriste de formation par ailleurs. Alors moi, ça me frappe toujours de voir que quand on a écrit un jour quelque chose, évidemment, ça n'est jamais par hasard. Il y a toujours une intention derrière. Laquelle? Bon, mais c'est un document.
Est-ce que vous avez été sincère ce jour-là, aussi en écrivant?
Oui. Souvent, je ne suis pas sincère. Enfin, c'est difficile d'être sincère. On se joue souvent la comédie.
Non, mais est-ce qu'on est sincère dans l'écriture d'un journal?
Eh bien, je pense que ça dépend des moments. Oui, on peut l'être par moment, et puis ensuite on peut se raconter des histoires, et on peut dire à son journal, oui, bah écoute, enfin presque en lui parlant, là j'ai voulu me mettre en valeur, et puis là au contraire, j'ai essayé d'être correcte. On est avec, enfin moi je suis avec mon journal, je parce que je ne sais pas les autres, mais moi je suis avec mon journal. Comment dire, extrêmement changeante, comme c'est quand même comme une personne amie, comme j'ai dit au début, avec laquelle j'ai des relations très spéciales. Donc, par moment, c'est vrai que je raconte vraiment le fond de ma pensée, et puis après, j'essaie de revenir sur ce que j'ai dit, et ensuite, mais c'est un dialogue continu, donc ça peut être plus ou moins harmonieux, plus ou moins dissonant, mais c'est là qu'on voit la complexité du caractère humain, même soi par rapport à soi, c'est pas évident. Mais ça fait du bien. Parce que le journal, bon, il vous renvoie votre propre image. Alors, quand on voit sa propre image, on se dit, mon Dieu, c'est toi qui as raconté ça, qui as pensé ça, et puis après, quelquefois, je me dis quand même, pourquoi as-tu dit ça d'une personne? Pourquoi t'es-tu cru obligé de faire ça? Mais c'était complètement inutile. Alors, voilà, ça... Et le journal enregistre tout. Et après, bon, on se dit, ça fait du bien quand même. Alors, je crois qu'on est avec un journal comme avec toutes les autres personnes, avec son caractère, hein, c'est-à-dire très compliqué. Mais le journal est quand même très, très bienveillant. C'est ça qui est merveilleux. Le journal ne vous contrarie pas. Il ne vous contrarie que vous, si vous, vous voulez être contrarié.
Au lycée, j'écris le soir, même tard, pour retrouver la profondeur perdue pendant les heures de cours. Les récréations, dans les cafés où tout le monde médit sur tout le monde. Seul compte cet instant du soir, où je peux palper le présent, où on ne me demande pas ce que je vais faire samedi soir, ou l'année prochaine en fac. Je cite Monterland à chaque page. 22 janvier 1987. Leur horrible pauvreté intérieure veut du bruit, et pas de solitude. Autrement, ils prennent conscience de leur médiocrité.
Bon, les mots, ça aide à se dire, et c'est ça que je cherche dans tout, quoi. Parce que j'ai dû rater quelque chose dans ma vie, hein. Donc j'essaie de le récupérer dans l'écrit. J'ai dû tout rater ma vie d'ailleurs.
Mais en écrivant, vous avez l'impression de réussir quelque chose.
Oui. Et je voudrais que ce soit ça, que j'essaye de trouver des tas de possibilités de vivre. Je crie au secours partout.
Vous criez au secours dans votre journal?
Je crois, oui.
Alors, Viviane, vous avez sorti votre journal, c'est quoi?
C'est pas vraiment un journal, c'est surtout un bilan, mais en fait, je sais pas si je peux l'utiliser tout à fait ça. Comme ça, c'est ce que j'ai écrit pendant 3 mois quand j'étais un peu en dehors de chez moi, quand j'étais en post-cure. et que je voulais donc... j'étais en plein dans des histoires de dépression, de vouloir résoudre les problèmes qui m'avaient amené là. J'étais aussi dans une psychothérapie de groupe qui était très dure et qui me permettait peut-être d'avancer encore plus. Et donc j'écris tous ces textes, ou bien alors ce sont des textes que j'ai, enfin c'est surtout des textes que j'écris, que j'ai retrouvés en rangeant mes papiers, puisque j'avais apporté tout ce qui traînait chez moi, ça me permettait de passer mes loisirs activement. Oui, je peux lire quelque chose, c'est ça? Alors ça c'est le début, donc ça s'appelle « Frêle urgence » et c'était « Je cherche le ventre de ma mère ». Fœtus expulsé vers un monde sanguinaire où il n'a pas sa place. Hypersensible et extralucide, le monde va mal et il me fait mal. Je erre de demeure en demeure, de gîte en gîte, traversant des campagnes sans profondeur et des villes sans âme qui vivent, des forêts bardées d'autoroutes, des plages plates semées de détritus, des lotissements, des réserves, des ghettos, franchissant les barbelés d'enceinte des usines, les portes blindées des centres sociaux, les portes capitonnées des bureaux, grimpant des marches, élevant la voix, ayant au passage élevé 3 enfants, les miens, ayant tout connu, la misère et le luxe, l'humiliation et le pouvoir, la tentation, la richesse intérieure, le dynamisme et l'abattement, mais ne retrouvant plus la chaleur et la sécurité du ventre maternel. Bon, ça c'est un peu le bilan de ma vie. Hein. If you took it all away, this love would fall apart. I say, no way. You don't know the size of my heart. Je dirais, si c'est un cahier, c'est pour pas laisser traîner des feuilles partout.
Vous les avez encore, ces documents?
Oui, certainement. Non, mais là, non. Oui, bien sûr, oui.
Donc c'est quand même une forme de journal intime.
Pas quand je le fais. Quand je le fais, c'est lorsqu'il y a un trop-plein, lorsque quelque chose doit être dit, doit être écrit, et que j'ai personne à qui le dire, et à ce moment-là, pas de rapport d'intimité suffisant avec quelqu'un pour que ça puisse passer. Bon. Il faut le noter, quoi. Mais arriver comme ça, de partir, à un moment où ça allait pas, 2 jours, tout en haut, dans la mer du Nord, prendre une petite ville de Hollande complètement paumée, prendre un hôtel pour voyageurs de commerce, et passer 2 jours à remplir un cahier complet de phrases, comme ça, sans... qui parlent de moi, quoi, qui est une tentative pour faire le point, quoi. On a besoin de la parole pour faire le point... Je pense que l'écriture est un substitut de la parole dans ce cas-là. C'est mieux de parler à quelqu'un, c'est mieux d'avoir un rapport qui permette de parler. Je trouve que l'écriture, c'est l'échec de la parole, dans ce cas très précis.
Et la mère avait une influence ?
La mère était mazouteuse. C'était une ville industrielle en plus.
Pourquoi vous aviez choisi cette ville ?
Je ne sais pas, on aboutit à un moment... dans un coin, je crois qu'en fait j'avais besoin de quelque chose de désolé, c'était réellement désolé. Je me souviens surtout des énormes paquebots, enfin des énormes bateaux qui étaient très très hauts sur pattes, je dirais, qui passaient le chenal, et l'ensemble était pourtant très propre, mais ça avait un côté de fin du monde, quoi. Je me suis dit à ce moment-là, à cet endroit-là, avec les torchères qui brûlaient. Mais comme toujours en Hollande, les choses sont propres, sont clean. Je me suis dit que si le monde s'arrêtait quelque part, si la Terre n'était pas ronde, c'était là. Qu'est-ce que j'aurais écrit dans un autre endroit? Je pense que j'aurais écrit dans un autre endroit, hein, ça c'est certain. Mais c'était là, c'était bien. D'ailleurs, je suis retourné par la suite une fois. Pour retrouver le lieu, pour retrouver l'émotion, mais c'était pas tout à fait pareil.
Est-ce que vous avez gardé ces documents que vous avez écrits là-bas ?
Oui, mais jamais relus. Je sais où ils sont, mais jamais relu. Jamais. Ils sont dans un coin. Je me suis toujours dit que tout ça, je le relirai un jour. Mais je crois que non, en fait, c'est comme une conversation. On l'enregistre pas pour la réécouter plus tard. Il y a des sortes de vers libres. C'est très personnel. C'est la vie intérieure. C'est ce qui se bouscule dans la tête. C'est les comptes à régler. C'est les douleurs. J'écris pas quand ça va bien, par exemple. Il me viendrait pas à l'idée d'écrire quand ça va bien.
Ce qui est étonnant, c'est que vous ne repartiez pas voir ce qui est dans ces carnets.
C'est plutôt bon signe, ça veut dire que le marasme ne s'est pas installé et que ça a passé, quoi. Ça avait comme fonction de se vider, ça avait comme fonction de passer. C'est fait. Je reviens toujours sur cette idée que ce type d'écriture, chez moi, ne se produit que lorsque la parole n'est pas possible, lorsque je peux pas parler. Si quelqu'un était là, on revient pas sur une... Quand on confie quelque chose à quelqu'un, on le confie, le temps de la confession, ça a lieu, mais on va pas en parler après tout au long de la relation, sinon c'est suicidaire.
C'est quand la dernière fois que vous avez écrit dans ce journal?
C'est plutôt bon signe, ça fait longtemps. Peut-être avant les vacances. Ouais, avant les vacances, ouais. Ouais, 4 mois.
Et vous vous souvenez de ce qu'il y avait ou pas?
Ça a dû commencer par un rêve dont je me souvenais. Et puis, ça a dû délirer dessus.
Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
C'est moi qui te fais fuir. Le malheur, tu penses que ça s'attrape, c'est ça. Parce que toi, je sais pas. Mais moi, je suis malheureux à crever. Mais n'aie pas peur. Je vais pas pleurer sur ton épaule. T'es pas mon ami. Même si tu la baises. Et que moi, elle a jamais voulu. Même pas la première fois. Quand elle m'a ramené dans ma chambre. Et que je me suis endormi comme un morceau de pitoche à côté d'elle. Et quand je me suis réveillé, elle me regardait avec ses grands yeux qui me voyaient pas. Elle attendait que je l'emmène. Elle n'avait que ça derrière la tête. Et moi, je voulais tout ce qu'elle voulait. Mais je voulais aussi qu'elle me voie autrement.
Cette peine perdue de me dire...
Est-ce que les hommes, ils apparaissent des fois dans ton journal?
Oui, ils apparaissent. Soit des récits de certains moments, soit des... J'aime bien, en fait, croiser des gens et... j'aime bien. En fait, des fois, on croise des gens dans le monde ou dans la vie, et particulièrement des hommes pour une femme, mais aussi des femmes. Et en fait, ils vous apportent, même si on les croise 5 minutes, ils vous apportent un moment de beauté ou de, enfin, d'un seul coup, la rencontre est complète. Dans le dernier album de Goldman, il y a une chanson comme ça assez marrante où il raconte qu'il croise une fille dans un café et il dit rien, il lui parle pas, il la regarde. Et il imagine sa vie à un moment donné. Enfin, il imagine sa vie. Et il s'en va et il lui a pas dit un mot. Et j'écris pas mal sur des hommes que je rencontre comme ça et à qui je dis rien. Mais que j'essaie de décrire ou qui me... Ouais, c'est une vie possible qu'on laisse entre parenthèses. Et puis les hommes, j'ai longtemps... D'abord, j'ai pas mal gardé, enfin, je garde en général les brouillons des lettres que j'écris aux hommes dont je suis amoureuse. Et puis, j'ai longtemps écrit à mon premier amour, j'ai longtemps écrit, ouais. Donc c'est ça, les hommes, enfin bon. Mais c'est pas forcément les hommes dans une relation amoureuse, c'est aussi ça, mais pas seulement. C'est aussi dans. les hommes, hommes et femmes au sens large, et ce qui vous donne ou ce qui vous apporte, enfin bon. Ou ce qui vous fait les détester et les mépriser, mais. Mais ça, c'est autre chose.
Quand tu as commencé, quand c'était l'adolescence, est-ce que tu écrivais sur les garçons à ce moment-là ou pas ?
Non, je n'écrivais pas sur les garçons, j'écrivais sur un homme. Donc c'était pas. Ouais, enfin, non, je n'écrivais pas grand-chose sur les garçons. En fait, les garçons ne m'intéressaient pas. J'étais. Quand j'ai commencé à écrire, et je crois que c'est lié à ça, enfin ça j'en suis persuadée, enfin j'en suis sûre, et ça je le sais, j'ai commencé à écrire parce que j'étais vraiment amoureuse, mais d'une seule personne. Et je crois que j'aurais jamais écrit sans ça, enfin j'en sais rien. Puis après c'est devenu une habitude.
Cet homme, c'était un homme rencontré ? C'était un homme fictif ?
Non, c'était un homme vivant et réel. De fait, je lui ai écrit aussi un petit peu, mais je lui ai envoyé un centième de ce que je lui ai écrit, mais bon. Mais donc voilà, donc non, c'était un homme réel, mais c'est ce que je disais. Maintenant, j'écris à ma tante morte, donc c'est des gens irréels à qui j'écris aussi.
Donc c'est cet homme de l'adolescence qui t'a poussé à écrire le journal, tu l'as rencontré ?
Ouais, j'ai rencontré, ouais. Ouais, c'est aussi ce qui a poussé ma mère à acheter mes deux premières années d'écriture.
Et comment elle est tombée sur le journal ?
Bah, elle est tombée sur le journal parce que moi, je crois que j'étais sans méfiance. C'est-à-dire que ouais, j'avais dû le... Bah, de toute façon, quand vous avez une mère et puis qu'elle a décidé de fouiller dans votre chambre, elle y arrive toujours à trouver ce que vous y avez mis. Donc, je me souviens, j'écrivais des trucs aussi sur une espèce de bloc-notes avec des trucs de manpower où il y avait un petit bonhomme là, un petit bonhomme nu et qui a tous ses bras écartés. Et en fait, bon, j'écrivais là-dessus et elle l'a trouvé. En plus, ça m'a porté tort parce que du coup, elle a su des choses qu'elle aurait peut-être pas dû savoir et en particulier parce que c'était pas vraiment un amoureux ni simple ni très autorisé. Donc maintenant, je continue à garder les choses. Je vis avec des gens. Je crois que si on lisait mes textes, si la personne avec qui je vis lisait mes textes, je la quitterais. Je crois que c'est de cet ordre-là. Enfin, je pense de toute façon qu'il le sait. En résumé. Non pas qu'il y ait des choses qui doivent pas être lues forcément, mais parce que c'est à moi, quoi, ça m'appartient. Et je trouve que c'est de la violence de rentrer dans les choses que les gens ont pas forcément envie de vous faire lire.
Est-ce que tu te souviens comment elle t'a interpellé quand elle a trouvé le journal ?
Ouais, je m'en souviens bien, ouais. Non, je m'en souviens. Je me souviens que c'était très violent. Enfin bon, que c'était inadmissible, que ça se faisait pas, que je devais être une obsédée sexuelle aussi, je crois. Enfin, j'en suis sûre aussi. Mais bon, enfin, je trouve que c'est des conneries et je pense que si j'ai une fille, j'irai jamais fouiller dans ses affaires. Enfin, j'en suis sûre, j'irai jamais fouiller dans ses affaires pour voir ce qu'elle écrit. Mais bon, j'en ai longtemps voulu, mais je crois qu'on pardonne aussi. Mais c'est vrai que c'est peut-être le seul truc où j'en ai vraiment voulu pour quelque chose de profond à ma mère, quoi. Ça, c'est clair. Non, parce que j'ai révélé des choses aussi, des rencontres, des discussions, peut-être un peu trop de gentillesse en face, ou de compréhension, alors que ça aurait pas dû être, qu'on n'aurait pas dû être gentil avec moi, qu'on n'aurait pas dû me comprendre, qu'on n'aurait pas dû me laisser espérer des choses comme ça, quoi. Donc, voilà. Puis en plus, ma mère connaissait ce mec, donc c'était un peu compliqué.
Et après, ça t'a poussé à te méfier quand t'écrivais ou pas ?
Ouais, ça m'a poussé à me méfier surtout par rapport à ma mère, mais après dans les différents endroits où je suis passée, où on pouvait, j'ai eu un appart où les copines avaient les clés, etc. Je sais pas, il y a une espèce de défi. Je veux dire, si les gens lisent, tant pis pour eux. Ouais, tant pis pour eux, quoi. Je veux dire, s'ils ouvrent une boîte de Pandore et qu'ils s'y brûlent la gueule, tant pis pour eux. Parce qu'en plus, ma mère, elle a lu des trucs qui lui ont fait de la peine aussi, j'imagine, mais tant pis pour elle, quoi.
Il y avait des choses sur elle aussi.
Ouais, il y avait des choses sur elle. Bon, en plus, non, bon, j'ai dit que l'adolescence est aussi un moment où j'ai écrit parce que j'étais amoureuse, mais c'était aussi une période où mes parents divorçaient, où enfin, il y avait des trucs assez violents qui se passaient chez moi, donc il y avait aussi ça qui était raconté. Avec, en plus, j'ai fait une belle crise d'adolescence, tout le monde me faisait chier, en particulier mes parents, enfin, moi, j'avais, bon, ça, c'est, enfin, je crois que c'est un peu normal, et après, quand on grandit, on change aussi d'avis sur les gens, sur les choses et sur comment ils se sont comportés. Donc, c'est vrai qu'il y avait des trucs assez violents, en plus, qui n'ont pas dû lui plaire particulièrement. Donc, bon. Je pense... bon, je ne les ai pas forcément gardés, mais... des trucs du genre j'en ai ras-le-bol, ils gueulent comme des hystériques, c'est tous des cons, des choses comme ça, je les déteste. Enfin, il y avait des choses comme ça aussi. Donc, qu'on n'écrit plus pareil après. Enfin, ouais, enfin, je crois que même si je voulais en trouver des trucs comme ça, j'en trouverais plus maintenant parce que à cet âge-là, en plus, tout est un peu mélangé dans sa tête et on en vit au monde entier. Il faut dire que, enfin, je crois que quand on sort de l'enfance, on s'en prend plein la gueule, quoi. On s'en prend plein la gueule, donc bon. Donc, enfin, on recrache ça en haine, en violence, quoi. Enfin, bon. Quand on est gamin, on imagine qu'on va être, je sais pas, comme Davy Crockett, ou qu'on va être un héros, qu'on va avoir une vie merveilleuse, qu'on va rencontrer le grand amour qui va vous aimer aussi. Enfin, bon, on lit un peu trop de contes quand on est gamin, quoi. Donc, quand on se percute avec ce que c'est que le monde des adultes, eh ben, ça fait mal, quoi.
Avril 1988. La distinction fondamentale entre les hommes et les femmes, et Monterland l'a déjà écrit, est que la femme n'a pas besoin de justifier son existence. Elle ne désire que l'homme, tandis que l'homme court de tous les côtés, essaie d'accomplir des actes héroïques. La femme s'en fout, pourvu qu'il soit un bon amant, et qu'il bait, trois petits points de suspension, bien. On se demande toujours pourquoi les femmes peuvent aimer les gangsters. En réalité, ceux-ci la fascinent. Ils possèdent quelque chose de mystérieux et de dangereux qui plaît aux femmes. Alors, vous me demandez comment on séduit les femmes? Eh bien, il suffit de savoir ce qu'elles recherchent chez l'homme, c'est-à-dire la disponibilité. Dites-lui qu'elle est jolie, qu'elle a quelque chose. Bref, dites-lui qu'elle a compté pour vous. Tout le reste n'est que foutaise. En relisant ce passage, il me semble certes reconnaître l'influence de Monterland, mais aussi de propos de Bukowski dans une émission littéraire.
J'avais envie d'écrire aussi par rapport à ma fille aînée qui avait claqué la porte d'ici. Bon, elle n'avait pas du tout aimé... se retrouver dans une petite maison sur cour alors qu'elle avait l'habitude d'habiter un grand appartement dans un beau quartier grâce à l'aide de l'APL qu'on n'avait plus puisque je travaillais. Je veux dire, c'était le monde à l'envers. Je travaillais pas, j'avais des bonnes conditions de logement. Je travaille, donc je dois tout payer plein pot et je me retrouve dans un logement qui est un peu difficile. C'est un peu tout ça que je voulais dire des choses à ma fille. J'écris des choses aussi à son propos, je peux peut-être le dire aussi. Ah ben c'est pas ça.
Ma fille, elle a quel âge?
Ma fille a 24 ans.
Et à l'époque, elle avait quel âge?
Elle avait 20 ans. Elle avait 20 ans, 20, oui, 20 ou 21 ans. Et donc on avait, bon, je crois que sur le coup, quand elle est partie, je me suis dit c'est ma faute, je suis une mauvaise mère. Mais en plus, bon, c'est vrai que j'avais été un peu dure avec elle, même très. Et ensuite, je me suis dit mais elle est partie, c'est formidable qu'elle a pu. D'abord, elle m'a écrit une longue lettre de 7 pages très serrée. Pour dire tout ce qui allait pas, et elle a pu s'exprimer, elle a pu aussi s'opposer à moi, elle a pu à un moment où elle en avait marre changer sa vie, et je me suis dit mais c'est au contraire c'est bien qu'elle ait pu faire ça, et c'est bien quelque part, j'ai pu lui permettre de faire ça, parce que c'est quand même moi qui l'ai élevée, puisque elle n'a pas beaucoup vu son père dans sa vie. Donc j'ai dit, ai-je dit à ma fille que c'était une battante à qui j'aurais aimé ressembler ? Lui ai-je dit que lorsqu'elle se passionnait pour des causes, elle resplendissait aussi de beauté intérieure ? Lui ai-je dit que j'étais fière d'elle ? Lui ai-je dit que je l'aimais ? Et comment n'ai-je pas compris que son arrogance avec moi est en réalité un profond désarroi ? Je t'aime, ma fille, pour toutes les nuits que nous avons passées ensemble, tenues éveillées par la peur lorsque j'avais été menacée de mort, ou que l'on avait tenté de forcer ma porte, et qu'il m'avait redonné du courage. Je t'aime pour les fous rires que nous avons vécus ensemble, irrésistiblement, dans les restos où ta petite sœur se comportait comme chez elle. Je t'aime pour les copains que tu as invités dans l'appartement et qui le rendaient plus gai, plus vivant, plus accueillant. Je t'aime pour ta bravoure. Je t'aime parce que tu es fragile et sensible. Je t'aime parce que tu as tenu bon face à mes colères. Je t'aime parce que nous avons pleuré dans les bras l'une de l'autre. Je t'aime pour ton humour. Je t'aime pour ton amour qui ne sait plus se dire. Je t'aime pour toi. Et je te demande de me pardonner pour tout ce que je ne t'ai pas donné, pour tout ce dont je t'ai chargé, pour toute la violence accumulée de mes révoltes, de mes désespoirs, qui n'a trouvé que toi, ma fille, à qui je ne voulais pas de mal, que je voulais aimer, pour se déverser, s'exploser, afin de ne pas crever. Tu m'as sauvée aussi, ma fille, quand tu as eu 15 ans. Je dis quand tu as eu 15 ans, parce que quand elle avait 5 ans, j'ai fait une première dépression, et je me suis retrouvée, j'habitais la campagne, avec seulement ma fille pour venir dans ma chambre de temps en temps me demander si ça allait. Donc c'était ça le fil qui m'a retenue à la vie en 79 quand elle avait 5 ans. Donc c'était se réconcilier, se retrouver que j'étais en train de faire là, dans mon écriture. Et je n'écrivais pas à elle, mais j'écrivais à moi en fait, puisque c'est mon journal. Mais en même temps, au fur et à mesure que je l'écrivais, je me sentais de mieux en mieux avec elle. Malgré qu'elle ne l'avait pas lu, je l'ai fait lire après. Hein. Enfin, je lui ai donné en tout cas, je ne sais pas si elle l'a lu, elle ne me l'a jamais dit. Mais ça y est, je suis nouveau en relation avec elle. Hein. Et bon, une relation un peu différente.
Quel moment vous avez décidé de lui donner ce journal ?
Dès que je l'ai écrit. Je pense que j'écrivais pour lui donner aussi. Je ne l'ai pas donné seulement à elle. Hein. Je crois que j'avais des comptes à rendre avec pas mal de monde, parce que ce que je dis aussi, c'est que notre relation, c'est pas un produit de nous deux, c'est un produit tout ce qui s'est passé dans notre vie dont on n'est pas responsable, toutes les difficultés, c'est les souffrances de la solitude, de la mienne. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Bon, ça ne se fait plus trop d'écrire. C'est dommage d'ailleurs. Je crois que, je disais, le fait de savoir qu'il y a plusieurs millions d'illettrés en France, donc de gens qui sont dans l'impossibilité d'écrire, ça me semble quelque chose d'horrible. Parce que l'écriture, ça permet justement ça permet tout.
Comment vous avez su que vos enfants, ils écrivaient aussi un journal, ils vous l'ont dit ?
Ah oui, oui, oui. Ils ont dit que j'avais pas le droit de le regarder. Ouais, c'est un journal intime, donc ici on respecte ce que les autres écrivent. Je veux dire, mes enfants n'ont jamais regardé ce que j'avais écrit, et moi j'ai pas regardé non plus ce que même écrivait. Ça me semble le minimum de respect les uns des autres. Si tout le monde pouvait avoir ce minimum là. Mais bon, c'est leur vie privée, quoi, qui cache dans leur chambre. Mais là, je suis à nouveau en dépression et j'en discutais donc avec ma dernière qui est tout le temps là, qui est tout le temps à l'écoute. Hein. Et elle m'a justement fait lire, elle m'a lu à haute voix, des passages de son journal intime pour je pense parce qu'elle pensait que ça pouvait m'aider à moins déprimer. Donc là, je sais vraiment qu'elle a écrit. Je sais qu'elle écrivait à partir de 8 ans, puisqu'elle a, elle a démarré. Elle a 18 ans. Donc elle a démarré des passages de cette période-là. Et elle, elle m'a dit un peu tout ce qui. Enfin, tout ce qu'il avait. Parce que c'était parti du fait que je disais, bon, moi je t'admire parce que toi tu déprimes jamais. Et elle m'a dit, si, j'ai eu des périodes aussi où ça allait pas et je vais te les lire. Et, et puis bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'admiration pour mes enfants. Aujourd'hui, je la trouve tellement équilibrée par rapport à moi que j'ai l'impression qu'elle n'a jamais eu de moment difficile, quoi. Alors que, en fait, c'est sa capacité à surmonter ces moments qui a eu, quoi.
« 17 janvier 1999, j'écris. Rendez-vous chez Viviane dans une courée. Impression d'être observé par les habitants qui discutent devant leur maison. Viviane nous accueille dans sa cuisine au-dessus de l'évier comme une mezzanine où un lit est installé. Pendant que Viviane parle, je pense. Comment fait-on pour dormir là-haut? Puis j'écris. Viviane, je ne voudrais pas avoir une vie aussi dure que la vôtre.
Avec mon journal, j'arrive à me détendre aussi quand même, parce que c'est souvent le soir, je le fais. Et là, je suis tranquille chez moi. Alors souvent, je me mets de la musique. Ma chère musique, qui me permet de me calmer et puis de faire un fond sonore. D'ailleurs, je voudrais bien pouvoir mettre sur des cassettes ou des CD-ROM, enfin je ne sais pas quoi, un fond sonore pour illustrer certains de mes propos. Parce que, en fait, que ma vie, c'est un peu comme un film aussi, quoi. Je veux dire, souvent quand je suis dans quelque part, j'ai une musique en tête parce que ça donne une coloration. Ça donne une coloration à l'existence. J'ai souvent des musiques en tête. Et par exemple, tout à l'heure, j'étais très énervée. J'ai joué un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, du piano. J'ai joué du Schubert. Alors, quand je peux jouer du Schubert, ça va mieux. Ça va, je me sens bien. Mais bon, malheureusement, je ne peux pas jouer du Schubert à longueur de temps. Mais c'est ça. Et souvent, quand je suis en colère, parce que je suis toujours souvent très en colère avec les gens, parce que j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Et en même temps, je voudrais qu'on se remette d'accord. Donc, je pense, enfin, la musique vient et ça me calme. Alors, j'aimerais bien que mon journal soit aussi un document non seulement écrit, mais agrémenté de musique.
Vous nous l'avez apporté, le cahier ?
Non. Oh, non, je ne l'ai pas apporté. Non. Non, alors là, non. Pour l'instant, je ne me sens pas encore capable de montrer ça. Hein. Ça vous aurait intéressé ? Enfin, j'en reviens toujours pour me détendre, de toute façon, à la musique. Même mes amis, ou mes amours, enfin, me ramènent à la musique. Et d'ailleurs, à cet homme qui m'intéresse tant, chaque fois que je souhaite qu'il vienne me voir, je lui dis, viens, je te jouerai du piano. Je lui dis pas, viens voir mes estampes japonaises, mais viens, je lui ai déjà joué du piano. Ce n'est pas avec lui que je joue du piano, mais à lui, j'ai envie de jouer du piano. Et une des choses qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand j'ai pu évidemment lui jouer la sérénade de Schubert. Alors il était en extase. Il ne savait pas très bien pourquoi moi j'avais envie, mais lui il était aux anges.
Et il revient souvent dans votre journal, cet homme ?
Ah oui. Oui. Oui, très souvent. Oui, c'est d'ailleurs un peu pour. Peut-être pour ne pas être trop malheureuse que j'écris. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir en moi le goût de l'écriture. Parce que lui aussi aime écrire, il a les mêmes passions. Oui. Il revient souvent, même quelquefois je trouve trop. Souvent, j'ai quelquefois l'impression que c'est démesuré, mais la passion c'est ainsi.
Vous voudriez lui attribuer moins de scènes dans le journal ?
Non, mais je me demande si ça serait pas bien que je m'intéresse à d'autres choses. Mais j'ai sans doute besoin de l'avoir, lui. C'est peut-être à lui que je l'ai dit tout ce journal aussi, hein.
Il y a un truc que... Je suis désolée de lire des bouts comme ça, mais... Là, j'ai un bout qui a été écrit il y a quelques temps. Par exemple, je disais ça, il y a des choses qui passent et soudain ne passent plus. Il y a un désarroi hâtif. L'existence du mal est bien l'énigme qui laisse sans voix notre entendement. Une inconcevable malignité. Il est dit que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Eh bien, si, je crois à ce singulier sentiment d'étrangeté. Un homme étranger. On va mettre X. X n'est pas le seul, mais je le rencontre. Je le vois agir dans une mesquinerie, une méchanceté, où j'en reviens toujours à ce mot, condamné à se toujours agrandir. C'est un cancer qui me semble, à vrai dire, insoignable, car généralisé. Des gens charmants deviennent à propos de leur chien ou de leur femme méchants. Du moins, y a-t-il de l'amour là-dedans ? Là, non. C'est la destruction des cellules d'amour par celles de haine, en toute partie de l'âme. J'ai vu quelque part des coupes de poumons. En fumée. C'est assez impressionnant. On voit des taches noires durcies qui s'étendent plus ou moins. On acquiert à les regarder un léger sentiment de malaise. Le sentiment que ça crisserait sous la dent, que la bouche s'infecterait comme envahie de cendres, qu'on mourrait en l'avalant. C'est immonde en somme. Je vois ainsi l'âme de X comme un poumon spongieux, durci de noisseur, entaché et pourrissant aussi. Je n'ai ni haine ni pitié qu'un abrutissant sentiment d'étrangeté, une rage. Je suis sur l'autre rive. Je décroche, demeure hallucinée et saute. Ça, c'est des trucs que parfois j'ai besoin d'écrire parce que une fois que j'ai écrit ça, c'est comme si j'avais réglé mes comptes avec les gens, alors que j'ai rien réglé du tout, mais parce que ils le savent pas. Mais ça m'évite aussi de leur sauter à la tête, quoi, d'avoir écrit ça. Donc ouais, enfin, je crois que le côté de dégoût, de révolte, il continue à être présent, forcément. Enfin, je crois qu'on a tous envie de tuer quelqu'un, pas vous.
Journaux intimes, impressions intimes, avec Marie, Nicole, Viviane et Claude. Tous les enregistrements ont été faits par Rémi Cousin, Radio France Fréquence Nord. Mixage Patrick Marguerite, Philippe Thibault. Journaux intimes, impressions intimes, par Christophe Deleu et Anne-Pascale Desvignes. Magnétique, bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 janvier 1999.